Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Votre grand témoin, je ne sais pas comment le qualifier aujourd'hui, parce qu'il est, étonnant, on va dire ça comme ça.
Vous pouvez le qualifier de maniaque, hein, il se qualifie lui-même de maniaque, et en plus, il est fier de l'être. Voilà, Édouard Moratpour, c'est mon grand témoin aujourd'hui, il est atteint de tics et de tocs, hein, les troubles obsessionnels compulsifs. Pour beaucoup, ses obsessions envahissantes, ses gestes répétitifs sont synonymes d'angoisse et de handicap. Mais pour Édouard, eh bien, ce n'est pas le cas, lui est bien dans sa peau, il est heureux et assume cette différence. Alors par exemple, Édouard a 18 parapluies de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Édouard ne voyage jamais sans sa trousse qui contient exactement 127 articles, hein, pas un de plus, pas un de moins. Et puis Édouard, chose encore plus étonnante, conserve sous son lit une hache, au cas où.
Bon, bah on va se fendre la gueule peut-être alors. Finalement, avec Édouard Moratpour, c'est tout de suite sur Vivre FM et jusqu'à 13h.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM s'appelle Édouard Moratpour. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité. Nous allons passer cette heure ensemble. Je suis ravi de vous recevoir. Vous venez nous présenter ce livre qui s'intitule « Moi, Édouard, vieux garçon, maniaque et fier de l'être ». Vous racontez vos 33 tics et tocs les plus toqués. C'est publié aux éditions Michalon. Alors voilà, vous êtes maniaque et vous l'assumez. Pour beaucoup, ça pourrait être un handicap. Pour vous, ça ne l'est pas du tout. Dans ce livre, il y a même beaucoup d'humour et vous assumez justement toutes ces petits tocs et tics de la vie quotidienne.
Oui, vous avez, c'est un sujet très sérieux, les TOC, hein, troubles obsessionnels compulsifs. En fait, en France, il y a 2 à 3 millions de Français qui souffrent de TOC. Et quelquefois, c'est très très grave, il y a 20% qui ont vraiment une vie empoisonnée, ils sont obligés de consulter des psychologues ou des psychiatres, parce que leur vie est impossible. C'est-à-dire que quelquefois, ils passent 12 à 16 heures dans ces rituels qui sont complètement absurdes. En fait, un TOC, c'est une pensée intrusive qui vous rentre dans votre cerveau et qui vous oblige à faire des gestes ou des pensées complètement absurdes. Exemple, pour bien faire comprendre le problème, exemple, on ferme sa porte en sortant 50 fois, 100 fois, parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir fermée. Exemple, des gens qui se lavent les mains 50, 100 fois jusqu'au 100 chaque jour parce qu'ils ont peur de ne pas avoir bien lavé leurs mains. Voilà, ça fait partie de ces rituels. Alors, il est vrai que j'ai un message un peu particulier, c'est-à-dire que moi, je voudrais dire, en fait c'est un témoignage pour dire que je vis heureux et je suis bien dans ma peau malgré mes tocs, ce qui paraît en effet un peu curieux.
Et vous avez toujours vécu aussi heureux ou il a fallu quand même les accepter et il y a eu peut-être un parcours avant de pouvoir être heureux avec vos tocs?
Alors, il y a eu un parcours de vie, bien entendu. C'est-à-dire que les tocs sont arrivés à la trentaine. J'en avais avant, si vous voulez. Je me rappelle, par exemple, de 2 tocs qui m'ont été rapportés par ma mère. Alors, évidemment, je savais pas que c'était des tocs à l'époque, hein, parce que j'avais 4-5 ans. Et c'est un des tocs, à mon avis, de base. Moi, c'est un des tocs fondateurs, je pense, de ma personnalité. C'est-à-dire que quand ma mère m'apportait quelque chose de bon à table, un plat, je disais tout de suite, est-ce qu'il y en a encore à la cuisine? Vous voyez, ça, c'est la peur de manquer qui a donné ensuite, comme résultat de TOC, l'accumulation. J'accumule des tas de choses qui servent à rien a priori, des boîtes de chocolat vide, des sacs plastiques, des parapluies, j'en ai 18 chez moi au lieu d'en avoir un. Et ensuite, j'avais un autre TOC qui est aussi apparu vers 7-8 ans. Ma mère voulait pas me déranger, mais elle me regardait dans ma chambre, compter et recompter mes pièces de monnaie de ma tirelire pendant plusieurs heures. Vous voyez, ça, c'est un TOC de vérification. Donc, les TOCs sont... Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs classements, mais enfin, c'est pour vous donner une idée. Et donc, moi, à 30 ans, pour des raisons que je ne connais pas, ils ont commencé vraiment à s'accumuler dans mon appartement que j'avais acheté. Et puis, il y a à peu près 8 ans, 7-8 ans, pour une raison, je dirais, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais pour un événement de vie plutôt très tragique, les choses ont changé parce que mon regard sur les tocs, sur le monde et sur les autres a changé. Donc j'ai pu prendre le contrôle de mes tocs et au contraire mettre les tocs à mon service. J'en ai éliminé certains, exemple fermer la porte. Je le faisais moi 50 fois ou plus, ça m'empoisonnait la vie. Et puis ça j'ai réussi par une méthode que je vous donnerai après à les éliminer. Et puis d'autres que j'ai gardées parce qu'elles rendent, ces tocs rendent ma vie plus apaisée, plus sereine, plus tranquille. Moi, je suis en paix avec mes tocs, contrairement à beaucoup de gens. Et ça a été aussi, il faut le dire, par l'autothérapie. Parce que je reviens à ces gens qui souffrent de tocs pendant des heures. Certains ont vraiment besoin de faire appel à des spécialistes, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues, formés aux méthodes qui éliminent les tocs. Parce que n'importe quel psychologue ou psychiatre n'est pas formé. C'est ça un des problèmes en France. En fait, pour dire, je fais une parenthèse, pourquoi je suis heureux d'être chez vous aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai toujours appelé les tocs le handicap invisible. C'est très important parce que...
C'est un handicap alors.
Ah, c'est un handicap invisible. Absolument, c'est un handicap. Ça vous handicape quelqu'un qui est obligé, par exemple, de fermer son enveloppe 50 ou 100 fois pour savoir si le chèque qu'il a mis est le bon, s'il n'y a pas d'erreur. C'est un handicap. Mais le problème, c'est que ces gens qui ont des tocs comme moi, cet handicap invisible, c'est une prison, en fait, où on est condamné à une double peine. C'est-à-dire, c'est la peine du toc lui-même. Le fait de faire, défaire, c'est une souffrance. On souffre à plus ou moins, à des degrés différents. Hein. Mais en même temps, c'est le regard des autres qui est terrible. C'est-à-dire les gens qui regardent des gens qui ont des tocs autour d'eux, se moquent d'eux. Ils les prennent pour des fous, ils les prennent pour des rigolos, alors que ce n'est pas du tout rigolo pour celui qui en a. Donc moi, j'ai écrit en fait un livre pour changer le regard des gens sur les tocs, parce que qui aujourd'hui s'amuserait à se moquer d'un handicapé ? Personne. Personne n'oserait faire ça. Quelqu'un qui est non-voyant, qui est sourd, qui est dans un fauteuil roulant, ou qui même qui bégaye, ne peut plus provoquer aujourd'hui le rire de quelqu'un. Personne ne se permettrait de le faire. Or, on le fait avec les gens qui ont des tocs. On les prend en gros pour des toqués, quoi. Donc, moi, ce que j'ai écrit, je voudrais faire passer le message, en fait, pour décomplexer les gens qui ont des tocs, à plus ou moins fort. Je veux décomplexer, je leur dis, révélez-les, c'est votre identité, moi je suis comme ça, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, moi j'ai le droit de me moquer de moi, c'est pour ça que j'emploie l'autodérision envers moi, mais les autres n'ont pas le droit. Ce qu'il faut, c'est le premier pas pour guérir, c'est d'abord d'assumer ce qu'on a, et ensuite de le traiter.
C'est une différence qu'il faut assumer.
C'est une identité qu'il faut accepter et assumer. Et une fois qu'on l'a assumée, on peut essayer de s'en débarrasser. Alors, soit par des spécialistes, soit comme moi, par l'autothérapie. Moi, j'ai jamais fait appel à aucun psychologue, à aucun psychiatre. C'est comme arrêter de fumer. Il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer simplement par une décision en disant « aujourd'hui, j'arrête ». Et d'autres ont besoin d'aller consulter, faire de l'hypnose, de l'acupuncture et autres, voilà.
Alors vous allez nous expliquer dans un instant, hein, Edouard, ce que vous avez mis en place justement pour vous débarrasser de certains tocs, pas de tous, puisque certains, vous souhaitez les conserver. Vous conservez toujours, par exemple, votre hache sous votre lit ?
En effet, moi...
Ça, c'est un toc.
Certains tocs, je les garde parce qu'ils m'apaisent, ils me tranquillisent ma vie, ils me rendent la vie plus sereine. Exemple, en effet, la hache. J'ai mis la hache, il y a une quarantaine d'années, sous mon lit, en me disant, si on m'attaque la nuit, qu'est-ce que je fais ? Ah, j'ai eu cette idée farfelue, c'est-à-dire je me dis, je sors avec ma hache dans la main et le voleur va s'enfuir. J'espère ne jamais avoir à m'en servir, mais ça me rassure. Et je l'ai laissé parce que ça rejoint un autre toc, c'est que je déteste le changement. Dans mon appartement, j'y vis depuis 40 ans, il est comme il y a 40 ans, il est très vintage en quelque sorte. Et dans 20 ans, il sera
peut-être
à la mode. C'est bien,
c'est la mode du vintage.
Mais en fait, c'est du vintage, du vrai vintage, c'est-à-dire que rien n'a changé. C'est peut-être une idée. L'idée, c'est d'arrêter le temps. Alors, ça fait peut-être appel à des choses profondes qu'on pourrait analyser psychanalytiquement, la peur de vieillir, la peur de mourir, peu importe. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne veux que rien ne change. Et la hache, je l'ai laissée depuis très longtemps. Et j'ai eu d'ailleurs une anecdote assez amusante, même, que je raconte dans mon livre. C'est que je venais de rencontrer ma compagne il y a à peu près 3 ans. Et on se connaissait très peu, donc au matin, elle avait perdu une boucle d'oreille, elle met la main sous mon lit pour attraper sa boucle d'oreille, elle sort avec une hache, crie d'effroi, « Aïe, je suis tombé chez un serial killer, au secours !» Alors je la rassure, je la prends dans mes bras, je lui dis « Non, je lui explique, j'aurais dû le faire avant. » J'ai dit « En fait, c'est pour me rassurer, c'est pour nous sauver, en fait. » Et donc voilà, ça c'est un exemple, j'ai aussi d'autres exemples, la corde à nœuds sur le balcon.
Vous avez une corde sur le balcon ?
J'ai une corde à nœuds sur mon balcon. Que j'ai attaché quand
Pourquoi
j'ai déménagé. Parce que mon appartement se trouve au 4e étage et il n'y a pas d'escalier de service. Donc, il n'y a qu'un seul escalier. Donc, je me suis dit, et s'il y a un incendie, qu'est-ce que je fais ? je vais pas sauter du quatrième, ça risque quand même de faire des dégâts. Donc j'ai eu l'idée, il y a une quarantaine d'années, d'attacher une corde au balcon, mais en même temps, je me suis dit, avec les nœuds, ce sera plus pratique. Il faut dire que j'ai jamais essayé, j'ai pas fait de test à blanc, parce que je vois très bien mon voisin du troisième qui me verrait descendre avec la corde à nœud. Je pense qu'il appellerait la police ou l'asile directement. Donc, mais elle est là, elle me rassure. Je dors tranquille, ça ne gêne personne.
Donc là, si je comprends bien, ces deux petits exemples là qu'on a cités, les tocs, c'est en gros pour rassurer des angoisses que vous avez, la peur de vous faire attaquer, la peur de l'incendie, c'est ça?
C'est le principe même des tocs. Ils sont malins parce que les tocs sont là pour enlever l'angoisse. Les psychologues connaissent bien ce problème, c'est-à-dire que c'est des rituels qu'on répète à l'infini pour enlever l'angoisse. Donc moi, voilà, je l'ai compris, bien entendu, j'en suis conscient. Mais comme il ne me gêne pas et comme il ne gêne personne, eh ben je les laisse là. J'en ai une trentaine au moins.
Autre exemple, vous voyagez jamais sans votre trousse qui contient 127 articles, pas un de plus, pas un de moins.
Alors, au moins 127.
Ah,
hein.
Il peut y en avoir plus.
C'est-à-dire que oui, il y en a plus. Parce qu'à chaque fois que je voyage dans un hôtel, ben, il y a quelque chose qui me... une savonnette, etc. Je la mets dans ma trousse. Elle y reste. Comme il ne faut pas changer, il faut que rien ne bouge, ben, ça s'accumule au fur et à mesure des années. Et donc, ma trousse, elle est très grande. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle prend les trois quarts de ma valise. Par contre, pourquoi ça me désangoisse? C'est-à-dire qu'avant, j'avais très peur d'oublier quelque chose. Hein, comme tout le monde, peut-être, on se dit, trois jours avant, je me disais, il faut pas que j'oublie ça. Donc, c'était une angoisse. Ensuite, c'était pendant le voyage, je me disais toujours, j'ai peut-être oublié quelque chose. Et en arrivant, évidemment, j'avais oublié quelque chose, comme d'habitude. Donc, moi, j'ai décidé de tout réunir dans une même trousse. J'ai fait fabriquer une énorme trousse, pour moi spécialement, transparente. Et donc, là, il suffit quand je pars en voyage, je prends l'énorme trousse, ça devient un toc, ça devient une compulsion, mais au moins ça me débarrasse d'un autre toc. C'est en quelque sorte un anti-toc, au fond. Un toc qui est devenu un anti-toc.
D'accord. Donc tout ça, on retrouve dans votre voix. Si je comprends bien, juste, Edouard, les tocs peuvent évoluer au fil du temps, c'est ça? Vous en aviez un petit peu enfant, hein, vous m'avez dit. Et en même temps, ça me laisse penser que tout le monde peut avoir certains petits tocs qui ne sont pas développés.
Oui, oui, en effet, tout le monde en a. De toute façon, je ne veux pas me raconter des histoires, tout le monde en a. Ouais. Et quand je donne mon livre à lire à quelqu'un, il m'avoue en général, il me dit, vous savez, bah, moi j'ai ça, mais je ne l'ai dit à personne. Parce qu'on en a honte. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on en ait honte. Il n'y a pas à avoir honte, c'est comme ça. C'est en effet notre identité, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que les théories varient, mais en fait, moi, je pense que les TOC sont provoqués dans la tendre enfance par des traumatismes, conscients ou inconscients. Moi, je vous dirais mon explication psychanalytique, entre guillemets. Parce que la solution des TOC, ce n'est pas du tout la psychanalyse. Ça, j'en suis convaincu. C'est des thérapies qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire qui agissent sur le cerveau cognitif et qui agissent sur le comportement. Mais ce n'est pas parce que on va chez le psychanalyste qui, au bout de 7 ans, vous explique la raison que vous allez le perdre, le TOC. Donc, en fait, je pense que, en tout cas dans mon cas, je suis convaincu qu'il y avait des TOC de base, quoi, en quelque sorte, des TOC fondateurs, en quelque sorte, dont la peur de manquer, voyez, qui a ensuite mélangé avec la vérification et qui s'est mélangé avec des tas de choses pour donner en fait une multitude de tocs très très variés. C'est comme un arbre qui a des racines et ensuite il a des branches, des feuilles, des fleurs. Mais en effet, les tocs se développent, se mélangent et ils peuvent ensuite tout d'un coup avoir une poussée à cause d'événements qui arrivent dans votre vie, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, bon, pour vous expliquer pourquoi je vous explique tout ça sur l'enfance, hein, le traumatisme. Moi, j'ai toujours pensé... J'ai fait mon auto-analyse et je me suis dit pourquoi j'ai peur de manquer. Pourquoi est-ce que j'accumule, par exemple, dans ma cuisine, on dirait une supérette, hein, ma cuisine. Il y a tout pour plusieurs mois et je les mange pas et je les donne à quelqu'un. Donc rien ne se perd. Mais moi, j'accumule toutes sortes de produits. Il faut qu'il y ait toujours tout dans mon frigo, notamment par exemple deux fenouilles. Il faut qu'il y ait toujours deux fenouilles. Allez savoir pourquoi et pourquoi par deux. Pourquoi des boîtes de chocolat vides en plus. Moi, j'ai remonté mon enfance, mais vraiment comme une auto-analyse. Et parce que ma mère, un jour, m'a dit qu'elle m'avait sevré de l'allaitement par le sein à 2 mois brutalement. C'est pas rester dans l'oreille d'un sourd, je dirais. Moi, j'ai retenu à cette idée, je dis, ma mère m'a donc arrêté de me nourrir du sein au deuxième mois brutalement. C'est le sevrage. Et je pense que ma peur de manquer vient de ça, parce que imaginez le petit enfant qui, son monde, c'est les seins de sa mère, il n'attend que ça pour manger, et tout d'un coup, on arrête brutalement de lui donner ce lait maternel, donc, vous voyez, c'est le geste, vous voyez, on a peur de manquer. Donc moi, je pense que c'est ça qui m'a donné...
Même en fond, on peut avoir des traumatismes qui nous suivent toute notre vie. Restez avec nous, Edouard Mouratpour, on continue de dérouler votre parcours de vie et de parler de votre livre dans un instant. On marque juste une courte pause.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin aujourd'hui continue avec Edouard Mouratpour, mon invité. Il vient me présenter son ouvrage qui s'intitule « Moi, Edouard, vieux garçon, maniaque et fier de l'être », un livre publié chez Michalon où vous présentez et vous assumez vos différents tocs. On en a parlé en première partie d'émission, des tics et des tocs. D'ailleurs, c'est quoi la différence pour nos auditeurs qui nous écoutent, Edouard, entre les tics et les tocs?
Alors, moi, je veux parler globalement des tocs, des manies, des obsessions, hein. Il ne s'agit pas d'un livre médical, hein, parce que la définition même de TOC, c'est, on l'a dit, trouble obsessionnel compulsif, et la définition médicale du TIC, c'est un trouble involontaire convulsif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cligne des yeux, par exemple. Ça, d'accord, c'est un TIC. Mais enfin, j'en ai pas, mais c'est pour globaliser le problème.
D'accord. Hein, en tout cas, votre ouvrage, c'est pour surtout décomplexer les personnes qui sont atteintes de TOC, justement, et qui en ont peut-être honte, parce que ça, on en a honte souvent, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ce livre, c'est pour qu'ils décomplexent et qu'ils assument.
C'est ça, c'est le seul but. Ce n'est pas un livre de recettes pour supprimer ces TOC. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis un témoin. En effet, c'est pour décomplexer, dire aux gens, comme moi, assumez ce que vous êtes. C'est pas de votre faute, hein. Pourquoi en avoir honte? C'est comme ça. Votre parcours de vie, vos gènes, votre éducation, vos événements qui vous ont marqué, vous ont amené à avoir des TOC. Eh bien voilà, c'est comme ça. N'ayez pas honte. Par contre, ensuite, évidemment, chacun trouve sa voie pour les éliminer. On peut pas vivre avec des TOC qui vous empoisonnent. Mais par contre, on peut vivre comme moi avec des TOC qui vous rendent service. Ce sont mes esclaves, hein. Mes TOC sont mes esclaves. Ma trousse avec 127 articles, elle me rassure, elle est à mon service. C'est pas moi qui suis son esclave.
C'est bien ça, on a compris que vos TOC aujourd'hui que vous avez gardés, parce que certains vous les avez éliminés, mais ceux que vous gardez, ils sont là pour vous rassurer vos angoisses.
Voilà, c'est pour me tranquilliser, pour me rassurer et pour moi me rendre ma vie paisible et pour penser à autre chose.
Aujourd'hui, vous êtes heureux. En tout cas, vous semblez heureux.
Je suis bien dans ma peau, voilà, je suis bien dans ma peau, je me plains pas de mes TOC. S'ils m'embêtent trop, je les élimine quand même, il faut dire. Mais par exemple, je peux vous dire, il y en a un que j'ai éliminé, c'est la porte. Parce que imaginez, vous fermez 50 fois la porte et ensuite, même en partant, vous n'êtes même pas sûr qu'elle est fermée. Hein. C'est ça le problème. Vous y pensez toute la journée jusqu'au soir, vous dites, est-ce que je l'ai fermée? Alors moi, c'est un truc que j'ai employé pour moi, mais chacun fait comme il veut. C'est de l'autothérapie, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, il y en a marre, on va éliminer ce TOC de la porte. Et j'ai diminué simplement, j'ai par la volonté, comme en effet je disais arrêter de fumer, j'ai diminué à 40, à 30, à 20, à 10, à 5 et peut-être à 1 ou 2. Et j'ai mon truc à moi parce que je pense que pour traiter les TOC, il faut des trucs. Moi j'ai mes trucs, par exemple pour la porte. Je mémorise l'acte de fermer la porte une fois pour toutes dans mon cerveau. Je l'ai vu fermer. Donc, c'est pas automatique. Il faut pas le faire automatiquement. Une fois que j'ai vu que je ferme la porte, elle est gravée dans mon cerveau. Donc, j'ai plus besoin d'y penser. Une fois qu'elle est gravée, elle est gravée. Vous voyez, c'est ça mon truc à moi.
Donc, et quand vous dites que vous diminuez aussi, ça veut dire que vous comptiez les fois où vous fermiez?
On les compte pas, mais on sait que ça dépasse. Non, on passe une heure, quoi. Vous voyez, on ferme. Et après, on est dans l'ascenseur. On dit, ah, je l'ai peut-être pas bien fermé. On revérifie encore. Ou la lumière, ça c'est aussi des tocs assez classiques. Les gens qui se demandent s'ils ont bien fermé la lumière de leur cuisine. Et ils vont vérifier pendant la nuit plusieurs fois, ils font le geste avec l'interrupteur et ils sont pas sûrs. Même en le faisant, ils sont pas sûrs de l'avoir fait. Vous voyez, c'est ça. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un problème, vraiment, c'est comme de la gymnastique, la thérapie des tocs. Je ne suis pas médecin, encore une fois, mais je sais que ce qu'on emploie comme méthode pour les éliminer, c'est ce que je vous ai cité avec la porte. Ce sont des méthodes actives, c'est-à-dire, on appelle ça exposition avec prévention de réponse. Alors, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se lave les mains trop ou 100 fois par jour, qui a peur de la saleté, quoi, il a peur des microbes, ben on lui fait toucher exprès des choses sales pour qu'il s'habitue. Vous voyez, c'est soigner le mal par le mal. Donc on va très loin, on lui fait toucher de la poussière. Et ben au début c'est dur, mais après il voit finalement que ben, ça ne fait pas grand-chose. Donc on l'empêche surtout de répéter. Vous voyez, ce sont des méthodes, en effet, comportementales. Et ce n'est pas de la psychanalyse, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait mon auto-analyse. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller chez le psychanalyste. Pourquoi ? Parce que je me vois sur son divan pendant 7 ans, tous les mercredis. Et au bout de 7 ans, il me dira, « Edouard, j'ai trouvé votre TOC, vient du fait que votre mère vous a sevré à l'âge de 2 mois. » Et il regarde sa montre, il me dira, « Bah voilà, l'heure est passée, vous me devez 100 euros, à mercredi prochain. » Je n'ai pas envie d'entendre ça. Vous voyez ? Donc non, la psychanalyse n'y peut rien. Ce n'est pas parce qu'on connaît les causes qu'on guérit ces troubles compulsifs. Ce sont des méthodes, en effet, qu'on appelle comportementales. Le problème, c'est qu'en France, les TOC sont une maladie, on peut dire que c'est une maladie, comme je dis, un handicap, qui n'est pas d'abord bien connu, pas bien reconnu, pas bien diagnostiqué. Et surtout, il y a très peu de spécialistes justement de ces traitements comportementaux en France. Il n'y en a pas beaucoup. Et la Sécurité sociale, au plus, ne prend pas bien en charge toute cette maladie, alors que je vous dis, il y a 2 à 3 millions de personnes qui en souffrent. Donc, il y a heureusement une association qui s'occupe de ça, qui s'appelle l'AFTOC, A-F-T-O-C, l'Association française des troubles obsessionnels compulsifs. Et donc, les gens qui ont vraiment des soucis, le plus simple, c'est de les contacter par Internet, etc. On leur donnera des bons conseils.
C'est important peut-être d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose. Chaque expérience peut nous être bénéfique, non ?
Exactement, c'est ça le but, mon message, mon témoignage. C'est qu'il faut parler avec ses amis, avec sa famille, il faut les révéler, il faut dire voilà, j'ai ça. Personne ne se moquera de vous d'abord, une fois que vous en avez parlé. Et une fois que c'est reconnu, eh ben, là vous pouvez aller vers la guérison. Mais si vous les gardez pour vous, parce que les gens qui ont des TOC, justement, ils rasent les murs, ils font tout pour qu'on ne les remarque pas. Quelqu'un dans son bureau qui ferme son enveloppe 50 fois, bah il se débrouille pour qu'on ne le remarque pas. Et il souffre pendant ce temps. Il faut le révéler. Il faut surtout, bien sûr, il vaut mieux le faire au niveau de ses amis, de ses proches. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller le révéler tout de suite au bureau, parce que le bureau est un élément quand même, un environnement assez agressif. Hein. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire son cercle privé, famille, amis.
Vous-même, est-ce que ça a apporté préjudice dans votre travail ? Vous faisiez quoi d'ailleurs ?
Non, moi justement, ça m'a aidé dans mon travail. Par exemple, moi, je suis extrêmement organisé. Ça devient un TOC, c'est-à-dire que tout doit être marqué, tout doit être listé. Mon agenda, par exemple, je le prends en début d'année et je construis tout mon agenda pour l'année. C'est-à-dire toutes les dates importantes, les impôts, les rendez-vous médicaux, le dentiste, les coups de fil.
C'est plutôt bien, ça.
Mais justement, moi, c'est un TOC, ça devient un TOC. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je souffre. Tant que je n'ai pas rempli mon agenda complètement, tant que je n'ai pas fait mes listes des choses à faire, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas heureux. Donc, c'est un TOC que j'ai maîtrisé, mais en fait, il m'a servi. Ça m'a donné vraiment une espèce de super organisation dans le travail qui est toujours excellente, évidemment.
Alors, Edouard Moratpour, la préface de votre livre est signée Céline Rivière, qui est psychologue. Un passage où elle dit que les TOC ont tendance à se généraliser, telle une épidémie dans notre société. Est-ce que c'est dû aussi un petit peu à l'atmosphère qui règne en ce moment ?
Tout à fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rituel fait pour enlever l'angoisse. Donc l'environnement est comme, on sait que l'environnement global, hein, aussi bien de notre pays que dans le monde, va de plus en plus vers l'angoisse, vers la peur, la terreur, l'inquiétude, l'inconnu. Donc c'est les psychologues et psychiatres qui s'occupent des TOC, et même les généralistes voient débarquer chez eux de plus en plus de gens et de plus en plus de jeunes. Moi, par exemple, j'étais sur une autre radio la semaine dernière avec des gens qui appelaient. Vous voyez, qui appellent en disant « mon fils a ça, ma sœur a ça ». Et on a entendu des choses absolument terribles. Par exemple, une dame qui disait « mon fils, il a 36 ans, il habite chez nous, il passe plus de 16 heures pour différents TOC et il parle même de suicide ». Vous voyez, c'est ça, c'est très grave. Hein. On rigole pas avec ça, on peut se moquer de soi, mais il faut libérer la parole. Mais ce sont des choses très importantes. Et j'ai constaté que de plus en plus de jeunes avaient des TOC. Mais il y a des cas, par exemple...
Ça vient de quoi, là, par exemple quand on parle de l'atmosphère un petit peu, on pense aux récents attentats, etc., où on se sent en danger. Ça vient de ça, l'angoisse, du traumatisme?
Ça vient de la peur du traumatisme, du danger, des attentats, des problèmes de chômage. Le monde est inquiétant. Voilà. Et c'est ce qui fait que les TOC gagnent du terrain. Hein, ils sont très malins, les TOC. Ils gagnent. Dès qu'ils voient une petite... un petit trou, il se précipite là-dedans, donc dans le cerveau, hein, parce que c'est une question de cerveau, hein, c'est des pensées intrusives, vous voyez, qui rentrent dans votre cerveau et qui vous obligent à faire des choses absurdes, mais c'est le cerveau qui commande. Alors, donc là, on l'a dit, le psychanalyste, bon, il peut expliquer, mais il faut les traiter concrètement. Il y a différentes théories qui pourraient expliquer, aujourd'hui, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ce qu'on appelle les comportementalistes expliquent en fait que c'est même peut-être dû à des bugs, en quelque sorte, dans le cerveau, entre deux zones du cerveau qui se connectent mal et qui font cette répétition. Parce qu'il est normal d'avoir des pensées intrusives, tout le monde en a. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça se répète 100 fois dans la journée. Vous voyez, c'est ça, c'est une question de dosage. Les médecins, en général, considèrent que si le processus de TOC vous prend plus d'une heure par jour, là, il faut vraiment consulter.
C'est ça. Si on se rend, par exemple, le coup de la porte...
Si on passe une heure devant la porte, c'est pas normal.
Il faut consulter. Alors, on consulte, on se tourne vers son médecin généraliste, on fait quoi
Voilà le problème, c'est qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Le généraliste, absolument pas, il ne connaît pas le problème. Il voit des gens venir chez eux, mais il n'a pas la réponse. Le problème des psychiatres et psychologues, ils ne sont pas tous formés à ces méthodes dites comportementales. Ça s'appelle des TCC. Thérapie comportementale et cognitive. Le TCC n'est pas très répandu, il y a peu de spécialistes. Donc, que faire? Eh bien, d'abord, on n'en parle pas, malheureusement, on les garde pour soi. Et donc, la première chose, comme on le disait tout à l'heure, c'est assumer, parlez-en. Et si vous, comme moi, à la limite, moi, j'emploie l'autodérision volontairement pour grossir le trait. Évidemment, ça m'a fait souffrir dans le passé, mais aujourd'hui, non. Mais il faut d'abord en prendre conscience.
Pour assumer en société aussi, on peut employer l'autodérision envers les collègues, envers la famille.
On peut faire de l'autodérision. Moi, je me moque de moi-même dans mon livre. Et parce que pourquoi ? Parce qu'avant d'écrire ce livre, moi, je voyais que mes amis s'en amusaient. Ça les faisait rire. J'ai dit, dans ce cas, pourquoi ne pas le rendre public ? Je rends public. C'est un peu un coming out en talk. Hein, vous voyez, c'est rien d'autre que ça.
Reste avec nous, Edouard Mauradpour. Dans un instant, on continue de parler justement de votre livre qui s'intitule « Moi, Edouard, vieux garçon, maniaque et fier de l'être ». C'est publié aux éditions Michalon. Un livre justement pour faire assumer à tout le monde ses TOC. Et il y a quand même entre 2 et 3 millions de Français qui sont concernés. Il faut le rappeler. À tout de suite, Edouard, sur Vivre FM.
Vous écoutez Le Grand Témoin.
Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Edouard Mauradpour, le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Vous venez nous présenter ce livre, Moi, Edouard, vieux garçon, maniaque et fier de l'être. C'est publié aux éditions Michalon, un livre où justement vous assumez vos TOC. C'est votre différence et c'est à destination de toutes les personnes qui sont concernées justement pour les aider parce que beaucoup ont honte de cette maladie. C'est une maladie, hein, on peut dire
c'est
ça comme ça.
C'est un handicap invisible. La meilleure définition, c'est un handicap invisible.
Handicap invisible lié à un traumatisme, c'est ce qu'on a dit...
En général, oui. C'est en général suite à un traumatisme, dès l'enfance, à mon avis, qui crée un terrain favorable. Et après, ça peut se développer ou non. À mon avis, c'est très lié à un traumatisme.
Alors, on a parlé de quelques-uns de vos TOC. Vous en avez combien? Vous les comptez ou pas?
Alors, dans mon livre, le sous-titre, c'est « Mes 33 tics et TOC les plus toqués ». J'en ai fait ressortir les 33 les plus significatifs. C'est ceux qui sont les plus inhabituels. Mais dans chaque chapitre, il y en a encore plusieurs. Donc, il y en a peut-être une centaine que je trimballe avec moi. J'en ai même rapporté de Russie parce que j'ai travaillé 20 ans à Moscou. Et là, j'en ai ramené de très jolis.
C'est-à-dire lesquels?
Alors, par exemple, quand je sors de chez moi, je tape 3 fois du pied la porte. Quand je sors, pour éviter le malheur. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les tocs de conjuration. Et ça, c'est très important. Chez moi, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire qu'on se répète des phrases ou on fait des gestes pour éviter le malheur. C'est comme une prière, comme une mantra. Alors, moi, j'ai aussi des mantras. Hein. Je ne peux pas vous les réciter là, mais en effet, aujourd'hui, c'est-à-dire que pour que les choses se passent bien, moi, je me répète des phrases à la bien ritualisées, bien construites. Ça, c'est une chose, ça s'appelle la conjuration. C'est comme une superstition. En fait, un toc, c'est une superstition personnelle. Alors, si vous voulez taper du bois, c'est un peu, tout le monde connaît ce fameux truc. Tiens, tape du bois. Mais moi, je tape, j'ai ramené de Russie ce toc où je tape avec mon pied, avec ma chaussure, la porte que je viens de fermer. Parce que pourquoi? Parce que les Russes, ça fait partie d'un, c'est un pays de toc, hein. D'ailleurs, ils en ont plein. Et donc là, en effet, un Russe, par exemple, ne rentrera jamais chez lui s'il a fermé la porte déjà en sortant. S'il a oublié un parapluie, il ne va jamais rentrer chez lui parce que ça porte malheur. Ça va aller savoir pourquoi. Mais en même temps, si jamais il le fait, il tape du pied 3 fois quand même en sortant. Et moi, j'ai ramené ce toc, je me dis, on ne sait jamais, au cas où, je tape quand même du pied 3 fois.
D'accord.
Ouais, ça, c'est la fameuse...
Donc les tocs, en fait, ce sont des rituels, des habitudes. Par exemple, vous ne faites pas un repas sans Coca-Cola.
Alors ça, c'est en effet ma phrase dans un restaurant, quand je m'assois, c'est toujours un coca, glaçon à part, sans citron. Mais une logique, hein, c'est pas parce que je suis pas du tout addict au coca, mais il faut qu'avec le repas, il y ait du coca. Voilà, c'est un toc, absolument, je peux pas m'en passer, mais au moment du repas. Par contre, la phrase est la même, c'est pour ça que c'est un toc, c'est toujours la même. Et donc, c'est pas que du coca, mais il faut d'abord qu'il soit à la bonne température et surtout pas gâcher son goût avec du citron. Voilà pourquoi la phrase, il y a toujours une logique dans mes tocs.
Au théâtre, vous ne voulez être qu'au premier rang.
Alors ça, en effet, c'est un toc que je ne peux pas éliminer. Je ne vais au théâtre qu'au premier rang. Heureusement, plein de gens n'aiment pas le premier rang. Vous savez, on croit que c'est... Oh, il y a des gens qui n'aiment pas, ils disent ça fait mal au cou,
on voit pas bien. Pourquoi alors?
Ben, moi, je vais être au premier rang parce que moi, je vais au théâtre pour voir les acteurs et pas voir des têtes devant moi. Ça me gêne. Donc, par contre, il y a le toc du cinéma qui est quand même assez... Ça, c'est un toc de Russe. Que j'ai pratiqué en Russie, que je ne peux pas pratiquer en France, malheureusement. Parce que, en fait, en Russie, les cinémas, enfin, depuis, disons, les années 2000, hein, il y a eu des complexes de cinéma numérotés avec les fauteuils numérotés. Et moi, j'ai constaté, je voulais pas avoir un mangeur de pop-corn assis à côté de moi, bon, ou en train de boire sa bière. Donc, j'avais adopté un toc magnifique. C'est-à-dire que quand j'allais seul au cinéma, j'achetais 3 places. Et j'avais donc 2 fauteuils vides à côté de moi. Parfait. Quand j'étais 2, j'en prenais 4. C'est simple comme bonjour. Le cinéma coûte pas très cher. Donc, j'étais heureux. Par contre, en France, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, les salles avec fauteuils numérotés sont plutôt rares. Donc, oui. Je me vois mal aller acheter 3 billets et me protéger mes 2 fauteuils à côté de moi en me disant, je les ai achetés. Là, il y aura quand même un peu de frustration.
Mais qu'est-ce qui se passe si jamais, si je reprends l'exemple du théâtre, vous n'arrivez pas à avoir la première place?
Mais j'y vais pas.
Vous y allez pas, d'accord.
Ah non, j'y vais pas. Au théâtre, je ne vais qu'au
premier. Vous pouvez pas affronter.
Je ne veux pas, ça me gêne. Je suis pas à l'aise, donc je n'y vais pas. Par contre, au cinéma, évidemment, je suis obligé d'y aller et d'acheter, comme tout le monde, une place et m'asseoir à côté de d'autres personnes. Mais pourtant, là, je vais plutôt à un moment où personne ne va au cinéma, j'y vais l'après-midi.
Bon, à l'ère du tout numérique, pourquoi vous conservez 6 magnétoscopes VHS?
Alors, en effet, ça rejoint un autre toc qui est « il ne faut rien jeter ». Ça, c'est un toc très connu. Il y a des gens qui sont gravement atteints, c'est-à-dire qu'ils ne jettent même pas, les pots de yaourt vides, hein. Moi, je jette les pots de yaourt vides. Par contre, je ne jette pas tout ce qui peut servir. Alors, comme j'ai une collection de cassettes VHS que j'ai constituée avec le temps, il y en a peut-être 400 cassettes VHS, donc il faut bien des magnétoscopes. Mais alors, si j'ai un magnétoscope et s'il tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'on en ait au moins 2. Eh ben, moi, j'en ai acheté 6 parce que je savais que ça allait démoder très vite. Aujourd'hui, on peut pas trouver de magnétoscope VHS, a priori. C'est très compliqué, c'est d'occasion.
Compliqué.
Mais dans les grandes surfaces, il y en a plus. Donc, moi, je me suis équipé de 6 magnétoscopes pour en avoir jusqu'à la fin de ma vie. De même, le téléphone. J'ai un téléphone mobile que j'ai ramené aussi. Je l'ai acheté à Moscou, qui est complètement basique. Il ne fait que téléphoner. Eh ben, je me suis dit, je vais le garder parce que ça m'arrange. Je n'aime pas tout ce qui est technologie, pas trop. Donc, j'aime pas les smartphones. Moi, je préfère un téléphone qui téléphone. Voilà. Et l'Internet sur téléphone, ça m'intéresse pas. Donc, comme je savais que ce produit allait s'épuiser rapidement, j'en ai acheté 5 que j'ai ramenés et 11 batteries. Parce que ce qui compte dans les mobiles, c'est d'avoir des batteries. Parce que s'il y a plus de batteries, il y a peu de téléphones. Donc, j'ai ramené 11 batteries et 6 mobiles préhistoriques. Ils sont préhistoriques, hein. Mais ils sont là, ils marchent très très bien.
Alors dans votre livre, vous écrivez aussi que vous répondez systématiquement à tous vos mails et SMS. En quoi c'est un toc, ça?
Ah, c'est une angoisse, c'est-à-dire que c'est pour ça que je n'ai pas peut-être d'iPhone avec moi. Enfin iPhone, de smartphone, pour ne pas citer de marque. Parce que si je reçois un mail, je me sens obligé, comme par une main invisible, à répondre. C'est pour ça que c'est un toc. C'est comme une obsession, quoi. C'est-à-dire que si je vois un mail, il faut que je réponde tout de suite. Si j'ai un téléphone, un message, je réponds tout de suite. Un SMS, je ne peux pas les laisser en attente. C'est une angoisse. Je ne peux pas les laisser en attente. J'ai l'impression que c'est impoli, c'est incorrect. Et donc, c'est comme si on m'appelait dans la rue que je ne répondais pas. Donc, moi, ça fait partie de...
Vous avez peur d'oublier peut-être aussi de répondre?
Non, pas du tout. Je n'oublie pas parce que je l'écris tout de suite sur un papier. Écrire à un tel, répondre à un mail. Donc, non, ce n'est pas par peur d'oublier. C'est par peut-être peur d'être incorrect. Voilà. Donc, je réponds tout de suite. Dès que j'ai un mail, dès que je m'assois, je réponds au mail que je vois. Et tant que je ne le vois pas, ben, j'ai pas de souci.
Est-ce que ça énerve votre entourage, vos amis? Est-ce que c'est compliqué, justement, en société, tout ça?
Oui, certains. Alors, certains de mes tocs ne dérangent personne. Exemple, avoir une corde à nœuds sur son balcon, ça ne dérange personne. Avoir 18 parapluies dans son bac à parapluies, ça ne dérange personne. Ça fait rire, mais ça ne dérange personne. Même la hache sous le lit, personne ne la voit. Ça ne dérange personne. Par contre, il y a des tocs relationnels qui peuvent gêner et sur lesquels je travaille. Exemple, un de mes tocs, c'est répéter les choses. Je répète, je répète, je répète. Exemple, si j'ai rendez-vous demain à 16h30, je le dis 3-4 fois, on a bien rendez-vous à 16h30. C'est bien 16h30. Alors à demain, 16h30. Vous voyez, pour être sûr d'être compris. Ça, c'est un vrai toc, de vérification. Et celui-là, il embête les autres. Mes amis me disent, bah oui, tu me l'as déjà dit, pourquoi tu me fais répéter? Donc ça, j'essaie de lutter contre ce toc-là. C'est un exemple de toc qui peut gêner. Parce que ce que je veux pas, c'est gêner les autres. Moi, je peux m'accommoder avec moi-même, mais certains tocs sont en relation avec les autres, et ceux-là, je lutte.
Alors, Edouard Mouratpour, on a quelques questions d'auditeurs, mais qui rejoignent déjà un petit peu vos questions. C'est l'heure des questions des auditeurs. Alors, Edouard, nous avons quelques questions d'auditeurs, mais vous avez déjà répondu à certaines questions. Hein. Par exemple, quel est le toc qui est le plus important pour vous? On a évoqué certains tocs. Hein.
Les plus importants? Ouais. Oh, ils sont tous importants, je les aime tous. Je les aime tous.
Ah, vous les aimez vraiment?
Oui,
ça, c'est important.
Aime. Ah, hein, bah oui, si je les garde, c'est que je les aime.
Vous aimez certains tocs. Est-ce que vos amis comprennent vos manies? Vous nous avez répondu il y a quelques instants. On a une autre question d'Olivia de Clichy qui vous demande comment vous réagissez à une situation imprévue. Parce que vous avez l'air de tout prévoir, du coup.
Je prévois tout, même l'imprévisible. Voilà ma réponse. J'essaie de prévoir tout, même l'imprévisible.
Ça doit vous arriver d'être dans une situation complètement imprévue?
J'essaie de faire en sorte qu'il y ait moins d'imprévus, mais bien sûr. Mais là, ce n'est pas un toc, si vous voulez. Là, ça fait partie des imprévus de la vie. Ça ne fait pas partie de la catégorie des tocs, à mon avis.
On a une autre question de Fabienne de Versailles. Elle vous demande si vous êtes hypochondriaque. Je ne sais pas s'il y a un lien entre avoir des tocs et être hypochondriaque.
Alors, j'ai la chance de ne pas avoir un toc du tout. C'est-à-dire que l'hypochondriaque, la peur des maladies, je ne l'ai pas du tout. C'est-à-dire que je ne me lave pas les mains 50 fois. C'est ce que ça fait partie de cette catégorie.
Ça peut être un toc, les gens qui ont toujours peur d'avoir quelque
bien
chose.
Sûr, bien sûr, c'est un toc type. Hein. Mais quand on se lave les mains, c'est pour les microbes. Hein. On a peur d'attraper, on a peur de toucher les autres. On a peur dans le métro de toucher les fauteuils, etc. On a peur d'attraper des maladies. Mais moi, je n'ai pas celui-là. Allez savoir pourquoi. Moi, je ne fais pas de check-up. Je ne fais pas de coloscopie. Je ne fais rien. Ça m'est complètement égal. Je ne fais pas d'électrocardiogramme. Ouais, donc ça m'est complètement égal. J'ai échappé à celui-là.
Et puis, il y en avait une question de Patricia de Paris 12e qui vous demande si vous avez déjà consulté un psy, mais vous y avez répondu durant cette émission. Vous n'êtes pas forcément pour.
Je n'ai pas consulté aucun spécialiste, surtout pas. Moi, j'aime beaucoup les psychanalystes, hein, je ne remets pas en question leur fonction, mais je pense que dans le cas des tocs, il est reconnu que ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas l'analyse. Par contre, les gens qui ont besoin consultent des psychiatres ou des psychologues formés, moi, je n'ai jamais consulté, j'ai fait ça par moi-même.
Voilà, c'est le conseil qu'on peut donner, essayer de les apprivoiser.
Essayez, mais attention! Si c'est grave, il faut consulter. Ça, je suis formel. Il ne faut pas se laisser parce que ça mine la vie. Hein. Ça, je veux dire, ça fait souffrir. Donc on parle des cas peut-être légers, mais il y a 20% des cas sont des cas graves qui peuvent même vous donner envie de se suicider. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé en disant « Au secours, mon fils, il parle de suicide ». Donc il faut absolument diagnostiquer. C'est pour ça que l'entourage est très important. Parce que ce qu'il faut, c'est décomplexer les gens qui en ont, mais décomplexer l'entourage également. Mmh. Il faut le prendre, comme on a dit, comme un handicap invisible qu'il faut traiter.
Et je conseille votre livre justement pour décomplexer ces idées reçues autour de ces tocs qui s'intitule « Moi, Edouard, vieux garçon, maniaque et fier de l'être ». C'est publié aux éditions Michalon. Edouard Mouratpour, merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Vivre FM.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.